Vous écoutez, on lit pour vous.
Et si on se permettait d'espérer mieux du réseau de la santé? Un texte de Marie-Ève Poitras et Matthew Menier, paru le 17 avril 2026 dans Le Devoir. La politique sur la première ligne constitue une avancée importante dans la restructuration du système public. Seulement 21 % des Québécois estiment que le réseau de la santé fonctionne bien, selon un récent sondage de Léger. Pourtant, 77 % jugent que les soins offerts par les travailleurs du réseau sont de bonne qualité et, lorsqu'ils y ont accès, vivent une expérience de soins qui est positive et qui soutient leurs conditions de santé. Autrement dit, la qualité des soins et la confiance envers les professionnels sont bien réelles, mais l'organisation du système est largement perçue comme défaillante. La première ligne est un acteur central de cette perception puisqu'elle constitue généralement le premier point de contact entre la population et le système de santé. Médecins de famille, pharmaciens, IPS, travailleurs sociaux, physiothérapeutes, etc. Il est vrai que plusieurs avancées et innovations, comme la télémédecine, l'intelligence artificielle et l'élargissement des rôles des pharmaciens, des infirmières praticiennes spécialisées, des physiothérapeutes et autres, ont été observées au courant des dernières années. Il ne faut toutefois pas passer sous silence une avancée majeure qui a le potentiel de transformer la première ligne au Québec, la politique gouvernementale sur la première ligne. Lancée le 27 mars dernier, il s'agit de la toute première politique gouvernementale sur la première ligne au Québec, et ce, depuis la mise en place du système de santé et de services sociaux tel que nous le connaissons en 1971. En soi, il s'agit d'un jalon historique, mais surtout, elle ouvre enfin la porte à une autre façon de penser et d'organiser les soins. Elle nous permet, enfin, d'espérer mieux. Pourquoi? Les réformes en santé ont trop souvent misé sur des solutions qui ont contribué à centraliser les décisions et à renforcer une vision hospitalo-centrée du système. Pendant ce temps, la capacité des réseaux de proximité à répondre aux besoins des communautés s'est érodée. La nouvelle politique propose un changement de cap, redonner aux acteurs locaux un rôle accru dans l'organisation des soins en tenant compte des réalités des milieux et des populations qu'ils desservent. Un objectif clé est que chaque citoyen du Québec soit rattaché à une source principale de soins et que l'on favorise un accès auprès de différents professionnels ou organisations de santé. Il est encourageant de constater que ces orientations découlent d'un vaste processus de consultation auprès de professionnels de la première ligne. Il y a un an, le ministère de la Santé et des Services sociaux a confié à notre organisation, Réseau 1 Québec, le mandat de mener une consultation auprès de la communauté scientifique sur une version préliminaire de cette politique afin d'en assurer la cohérence avec les réalités du terrain et les connaissances scientifiques. Réseau 1 Québec est un réseau de recherche en soins primaires qui rassemble cliniciens, chercheurs, citoyens et partenaires afin de produire et de mobiliser des connaissances pour améliorer l'organisation et la qualité des soins de première ligne au Québec. Nous avons consulté près d'une centaine d'experts du Québec et du Canada et le constat est clair. Cette politique constitue une avancée importante dans la restructuration du système de santé. Elle s'inscrit dans la cohérence avec les politiques de première ligne mises en place ailleurs au Canada et à l'international. Dans un contexte où la transformation des soins primaires est essentielle, il est crucial que les changements opérationnels visant à atteindre les orientations stratégiques reposent sur des données probantes et solides. Il importe également d'éviter de privilégier des résultats rapides au détriment d'implantations rigoureuses et durables. Une vision à long terme est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et nous devons nous y tenir. Cette vision ne doit pas être fragilisée au profit de l'opinion populaire, de l'opinion corporative ou au gré des changements politiques. En tant que directeur scientifique du Réseau 1 Québec, nous ne pouvons que soutenir la vision promue par le gouvernement. Mais ce soutien s'accompagne d'une condition, que la collaboration avec les chercheurs soit au cœur de la mise en œuvre et de l'évaluation de cette politique. Elle permettra d'accompagner les changements, d'en mesurer les effets et de s'assurer de l'atteinte des jalons. Cette transformation exigera également des ressources à la hauteur des ambitions affichées, notamment un financement soutenu de la recherche en soins primaires, souvent sous-financés par rapport aux autres domaines de recherche spécialisés. Cela est essentiel pour contribuer à l'amélioration continue du système de santé et pour favoriser un dialogue éclairé entre la science et la société au profit d'une incidence réelle de cette politique sur la qualité de soins québécois. Bien que la nouvelle politique gouvernementale sur la première ligne ne constitue pas une solution miracle, elle offre une base solide, crédible et porteuse. Elle nous permet enfin de croire qu'un réseau plus accessible, plus humain et plus efficace est possible. C'était « Et si on se permettait d'espérer mieux du réseau de la santé? » Un texte de Marie-Ève Poitras et Matthew Menier, paru le 17 avril 2026 dans Le Devoir.
Tous les aciers ne se valent pas. Un texte paru le 1er août 2025 dans le magazine Québec Science. Au milieu des années 1940, les essais et les explosions nucléaires ont commencé à contaminer l'air avec des éléments radioactifs. Depuis ce temps, l'acier fabriqué sur Terre est aussi contaminé, car l'air est nécessaire à sa fabrication. La solution pour avoir de l'acier propre, trouver de l'acier d'avant 1945. L'acier, ce matériau si commun, vélo, broche, évier de cuisine. Pour être précis, l'acier n'est pas un métal, mais un alliage, c'est-à-dire le mélange de plusieurs métaux, parfois d'autres éléments, pour en obtenir un nouveau avec de nouvelles propriétés. Dans le cas de l'acier, il contient principalement du fer, auquel s'ajoute du carbone, 1,8% ou moins. La plupart des aciers contiennent d'autres éléments comme du chrome ou du molybdène pour le rendre résistant à la corrosion ou lui conférer d'autres propriétés. Mais la date à laquelle un acier a été fabriqué influence aussi sa composition. C'est que la production d'acier nécessite de l'air ou de l'oxygène pur. Or, l'air d'avant 1945 était différent de l'air d'après 1945. Pourquoi? À cause des premiers essais nucléaires. L'air normal contient un petit fond de radioactivité à cause d'isotopes qu'il contient naturellement. Le carbone 14, par exemple, qui sert notamment à déterminer le nombre d'années écoulées depuis la mort d'un être vivant, est généré en permanence en haute altitude et rend l'air qui nous entoure très légèrement radioactif. L'acier fabriqué à partir de cet air est donc très légèrement radioactif aussi. Or, dans les années 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des essais nucléaires ont eu lieu et deux grosses bombes nucléaires ont même été larguées sur le Japon. Durant cette décennie, toutes les explosions nucléaires ont enrichi l'air de la Terre en atomes radioactifs. L'acier fabriqué à partir de ce moment est donc un peu plus radioactif que celui fabriqué avant cette date. Cela demeure une radioactivité très faible, et pour construire un vélo, ça ne change rien. Mais pour construire des appareils qui servent eux-mêmes à détecter de très faibles niveaux de radiation, c'est catastrophique. Les laboratoires de physique avancés ou les centres de recherche en médecine nucléaire ne peuvent tout simplement pas utiliser l'acier contemporain. Pour pallier ce problème, les fabricants de ces appareils utilisent, ou plutôt recyclent, du vieil acier produit avant 1945. Une des principales sources d'acier préatomique est une flotte de navires allemands de la Première Guerre qui avait été capturée dans une baie écossaise à la fin du conflit. Le vice-amiral qui commandait cette flotte a préféré saborder les navires plutôt que de les laisser aux mains des Alliés. Et c'est là, au fond de cette baie, que les fabricants d'appareils sensibles s'approvisionnent en acier propre. On a renfloué plusieurs de ces navires et on recycle leur acier depuis ce temps. C'était « Tous les aciers ne se valent pas », un texte paru le 1er août 2025 dans le magazine Québec Science.
La dépression n'est pas qu'une question de tristesse. Un texte de Virginie Soffer, paru le 8 avril 2026. On associe la dépression à une immense tristesse. Pourtant, cette représentation simplifiée ne correspond pas toujours à ce que vivent les personnes qui en souffrent, selon une étude menée par Serge Lecourt, professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal, et son étudiant Alexis Gondolf auprès de plus de 60 adultes de la région montréalaise. Les résultats montrent notamment que la gravité des symptômes dépressifs est fortement associée à l'hostilité dirigée contre soi ainsi qu'à une difficulté à mentaliser la tristesse, c'est-à-dire à reconnaître et à mettre en mots cette émotion. Observer les émotions dans les récits de vie. Pour mieux comprendre ces dynamiques émotionnelles, les chercheurs ont recruté 62 adultes âgés de 18 à 60 ans ayant fait une demande de soins psychologiques. La gravité de leur dépression a d'abord été évaluée selon l'échelle de dépression de Hamilton. Les participants ont ensuite pris part à une entrevue semi-dirigée durant laquelle ils devaient raconter des expériences relationnelles marquantes ayant suscité différentes émotions, notamment de la tristesse. Ces entretiens ont été transcrits et analysés. Les chercheurs ont relevé des centaines de moments émotionnels évoqués, par exemple « je me sentais triste »,« j'étais fâché » ou « je m'en voulais ». Puis ont coté chacune de ces émotions. Ils ont utilisé la grille de l'élaboration verbale de l'affect, conçue par Serge Lecour, ainsi qu'une mesure permettant de distinguer 24 émotions exprimées dans le discours. Si l'on veut comprendre comment les émotions sont réellement vécues, il est utile d'observer comment elles apparaissent spontanément dans le récit, précise Serge Lecour. Quand les émotions restent dans le corps. L'étude repose sur une distinction importante dans la régulation émotionnelle. D'une part, la dimension quantitative correspond à la fréquence et à l'intensité des émotions ressenties. D'autre part, la dimension qualitative concerne la capacité à mentaliser les émotions, c'est-à-dire à les reconnaître, à les comprendre et à les exprimer à l'aide de mots ou d'images. La mentalisation consiste à transformer ce qui se passe dans son corps en expérience psychologique, explique Serge Lecour. Lorsqu'une émotion est peu mentalisée, elle reste plus proche du corps ou de l'action. Une personne peut ainsi se dire épuisée, ralentie ou sans énergie, sans nommer explicitement la tristesse sous-jacente. Selon les résultats, les individus présentant davantage de symptômes dépressifs ont tendance à moins bien mentaliser leur tristesse. Chez certaines personnes dépressives, la tristesse n'est pas vraiment reconnue comme telle. Elle se manifeste plutôt sous forme de détresse ou de sensations corporelles, indique Serge Lecour. Cette observation rejoint d'ailleurs certains symptômes de la dépression, comme la fatigue, la perte d'énergie ou les difficultés de concentration. Le poids de la tristesse comme indicateur de la dépression? L'une des découvertes les plus surprenantes de cette recherche est que la tristesse exprimée n'est pas nécessairement le meilleur indicateur de la dépression. En demandant aux participants de raconter des expériences liées à la tristesse, les chercheurs ont observé que les personnes dépressives évoquaient souvent d'autres émotions. Elles parlaient plutôt d'interactions difficiles, souvent marquées par de la colère, de l'injustice ou de la culpabilité. Et leur réaction consistait fréquemment à s'en vouloir, explique Serge Lecour. Même lorsque les intervieweurs orientaient la discussion vers la tristesse, les participants ne mentionnaient pas une expérience claire de perte ou de chagrin. Ce phénomène correspond à ce que le psychologue Carol Izard appelle la tristesse compliquée. Chez certains individus, cette tristesse se mêle à d'autres affects comme la culpabilité, la honte ou le mépris de soi. Selon Serge Lecour, cette dynamique peut s'expliquer par l'histoire émotionnelle des personnes. Dans plusieurs cas, la tristesse n'a pas été une émotion permise. Être triste pouvait être perçu comme un signe de faiblesse ou de vulnérabilité. Alors quand la tristesse apparaît, elle est rapidement remplacée, explique-t-il. Moins d'attachement envers les autres. L'étude a également révélé des corrélations dans la vie relationnelle des participants. Les personnes présentant davantage de symptômes dépressifs évoquaient moins souvent des sentiments d'amour ou d'attachement envers les autres. À l'inverse, leur discours contenait plus d'expressions de désir ou de manque, comme « j'aurais voulu » ou « j'aurais aimé ». Selon Serge Lecour, cela pourrait refléter une vie relationnelle insatisfaisante. Les relations ne sont plus vécues comme des sources de réconfort, mais comme des lieux de conflit et de déception, ce qui est également associé à l'anhédonie, soit une perte de plaisir. Des implications pour la psychothérapie. Ces résultats contribuent à mieux comprendre la dépression et à orienter certaines interventions thérapeutiques. Les personnes dépressives se trouvent dans un état plus douloureux. Elles ont besoin qu'on soit plus présent, plus validant, plus consolant. Elles ont souvent tendance à être très sévères envers elles-mêmes, mentionne Serge Lecour. Une partie du travail thérapeutique consiste à aider le patient à reconnaître cette autocritique et à mettre des mots sur son expérience émotionnelle. Quand une émotion est mieux mentalisée, elle devient souvent plus tolérable. On peut commencer à la réfléchir plus tôt que simplement la subir, conclut-il. Mieux comprendre la manière dont les émotions sont vécues dans la dépression permet ainsi d'affiner les approches thérapeutiques et de répondre plus efficacement aux besoins des personnes concernées. C'était « La dépression n'est pas qu'une question de tristesse », un texte de Virginie Soffer, paru le 8 avril 2026.
À Cuba, la réalité des familles d'enfants gravement malades. Un texte de Mathias Acuna, paru le 15 avril 2026 dans Le Devoir. À Cuba, le manque de pétrole ralentit tout, les déplacements, les soins, le quotidien. Dans un contexte marqué par l'embargo états-unien et des choix politiques lourds, ce sont d'abord les plus fragiles qui en subissent les conséquences, notamment les familles monoparentales d'enfants malades. Près d'un foyer cubain sur cinq est dirigé par un seul parent, le plus souvent une mère. Pour ces femmes, chaque obstacle prend plus de place, chaque imprévu pèse davantage. Alors que Donald Trump évoque une possible reprise des livraisons de carburant, l'espoir reste fragile, teinté de méfiance chez les Cubains les plus vulnérables. Edelmira Lores, 25 ans, revient de 2 semaines passées à l'hôpital avec son fils Danielito. À 3 ans, le garçon se bat depuis quelques mois contre une leucémie promyélocytaire aiguë. Tout commence en septembre dernier. Fièvre persistante, douleur, ecchymose sur le corps. À l'hôpital de Matanzas, les premiers tests orientent les soupçons vers la dengue, au moment où Cuba traverse une importante épidémie. Au 9 décembre 2025, plus de 42 000 cas de dengue et de chikungunya sont recensés dans le pays. Mais l'état de Danielito ne s'améliore pas. Inquiète, sa mère insiste pour qu'il subisse des examens plus poussés. Le diagnostic tombe. Leucémie. L'enfant est rapidement transféré dans un hôpital spécialisé à La Havane où il est hospitalisé pendant 1 mois. Depuis, les traitements se poursuivent. Du lundi au vendredi, mère et fils vivent à l'hôpital. Chaque vendredi, il rentre à Matanzas, à 100 kilomètres de la capitale. L'État leur fournit le transport. Sans cette aide, avec le prix actuel de l'essence, ce serait impossible, explique Edelmira. Mais ce service reste incertain. Le carburant manque, les délais s'allongent. Il faut souvent attendre sans savoir combien de temps. Parfois, ils doivent trouver de l'essence le jour même, et s'il n'y en a pas, il faut essayer un autre jour, ajoute la mère. À l'hôpital, la situation est tout aussi précaire. Un médecin qui préfère garder l'anonymat décrit un système sous tension. Avec les coupures de courant et le coût du transport, plusieurs professionnels ont réduit leur présence. Certains ne travaillent plus que 2 jours sur 5. Ils se relaient et restent disponibles en cas d'urgence. Mais les pannes rendent les communications téléphoniques très instables, compliquant ainsi les interventions. Pendant ses séjours à La Havane, Edelmira doit faire garder ses 2 autres enfants. Isabella, 1 an, reste chez une voisine. Jailer, 7 ans, est souvent accueilli par son grand-père. À son retour, les retrouvailles sont marquées par une joie intense. La jeune mère tente de maintenir un équilibre, consciente des répercussions de ses absences sur ses enfants. Par moments, le père de Danielito prend le relais à l'hôpital, lui permettant de passer quelques jours à Matanzas. Chez elle, les conditions de vie restent difficiles. L'électricité ne dure que quelques heures par jour, ce qui rend toute tâche quotidienne compliquée. L'eau doit être transportée depuis un puits. Pour accéder à l'eau, Edelmira effectue plusieurs allers-retours quotidiens avec des contenants en plastique jusqu'au puits du voisin, situé à 30 mètres. Même les gestes les plus simples exigent un effort. « On commence à cuisiner au charbon », ajoute-t-elle. La maison achetée $500 américains au début de 2026 ne comporte qu'une seule pièce servant à la fois de cuisine et de chambre. La jeune mère ne possède aucun document officiel attestant de la propriété. « L'ancienne maison était presque un placard », dit-elle. Malgré cet espace légèrement plus grand, le logement présente des risques importants. L'humidité et la moisissure envahissent les murs. Pour Danielito, dont le système immunitaire est affaibli, l'environnement représente une menace constante. Edelmira n'a jamais occupé d'emploi stable. S'occuper seule de ses 3 enfants, dont un gravement malade, rend toute activité professionnelle presque impossible. Et même en ayant un salaire, elle ne pourrait pas subvenir à leurs besoins. Elle dépend de l'aide de son entourage. Parfois, quelqu'un lui apporte un peu de nourriture. Malgré tout, elle continue d'avancer. « Je n'ai aucune illusion. Les gens disent que la situation va changer, mais moi, je crois à ce que je vois. » Ce qu'elle voit, c'est un quotidien fait d'attente, de manque et d'incertitude. Pourtant, elle s'accroche. Parce que pour elle, comme pour d'autres mères dans le pays, continuer n'est pas un choix, c'est une nécessité. À La Havane, la situation reste tout aussi complexe pour d'autres familles. Maritza Battles-Calzada et sa famille vivent une réalité similaire. Son fils, Riquelm, 18 ans, atteint lui aussi de leucémie, doit se rendre régulièrement à l'hôpital. Contrairement à Danielito, il ne bénéficie d'aucune aide pour le transport. Dans une ville où les taxis sont rares et coûteux, chaque rendez-vous médical devient un obstacle. La mère de famille reçoit 4 500 pesos cubains par mois du gouvernement pour le cas de Riquelm. Selon elle, cela ne suffit pas à couvrir les transports mensuels vers l'hôpital. Dans la maison où cohabitent plusieurs générations, chacun contribue comme il peut. Le frère de Riquelme et son cousin ont dû abandonner l'école pour travailler et soutenir la famille. La nourriture, pour les membres de cette famille, est aussi le plus grand des stress. Le système de rationnement qui permettait autrefois aux enfants malades de bénéficier d'une alimentation adaptée n'existe presque plus. Ils n'arrivent pas à se rappeler la dernière fois qu'ils ont vu de la viande, un aliment vital pour le rétablissement des enfants atteints de leucémie, à la bodega, épicerie d'État où le peuple fait des achats à prix subventionnés. Les protéines et autres produits essentiels n'arrivent plus, ce qui oblige Maritza à composer avec ce que la bodega peut offrir, bien que ce soit souvent insuffisant pour les besoins spécifiques de son fils. Pour Yeni Diaz, 42 ans, mère de 2 enfants, le coup le plus lourd vient de l'effondrement du tourisme. Les ruelles autrefois animées par les visiteurs sont désormais presque désertes. Cette activité, qui représentait une source de revenus pour de nombreuses familles, a disparu, laissant derrière elle des vies bouleversées. Avant la crise, Yéné vivait de son travail de tresseuse de cheveux pour les touristes du port. Aujourd'hui, elle cherche en vain un client afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa fille Amy, 9 ans, qui, à l'âge de 1 an, a eu une tumeur au cerveau dont elle subit encore les lourdes séquelles. Le gouvernement lui offre 3 700 pesos cubains par mois pour le cas d'Amy. La mère a dû inscrire son fils de 12 ans dans une école où il réside quelques jours par semaine afin de réduire le nombre de bouches à nourrir. Amy nécessite plusieurs médicaments quotidiens ainsi qu'un remplacement mensuel de sa sonde de gastrostomie. À Cuba, la santé publique est gratuite, mais le manque d'équipements et de médicaments oblige les familles à se procurer elles-mêmes ce qui est nécessaire. Par exemple, pour l'opération des kystes cérébraux d'Amy, qui lui donne des crises d'épilepsie, estimée à environ 200 dollars US en matériel, Yeni doit désormais compter sur le marché noir, où les produits chirurgicaux et certains médicaments sont disponibles, mais souvent contrefaits ou douteux. « La sonde me coûte 20 dollars US dans la rue », dit-elle en pointant le ventre d'Amy et la sonde qu'elle devait changer le mois passé. La chute du tourisme a aggravé la situation. Sans clients réguliers, Yeni ne peut plus financer ni la nourriture ni les soins de sa fille. Elle a même été contrainte de vivre dans la rue avec ses enfants avant que le gouvernement ne les reloge dans un quartier de Boyeros, loin de leur vieille Havane natale. Leur maison modeste et humide est entourée de déchets et de mouches, un rappel constant de la précarité quotidienne. Malgré ces obstacles, Yeni continue d'aller chaque jour à la Plaza de Armas, espérant trouver un revenu, même minime, pour assurer les soins d'Amy. En septembre 2026, elle s'est convertie à l'islam afin de « trouver un peu plus de foi et de force », dit-elle. Dans une Cuba qui peine à respirer, un même constat s'impose. La maladie ne se combat pas uniquement à l'hôpital, mais dans chaque déplacement, à chaque repas et dans chaque attente imposée par le quotidien. C'était « À Cuba, la réalité des familles d'enfants gravement malades », un texte de Mathias Acuna, paru le 15 avril 2026 dans Le Devoir.